Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Nadine Jasmin, spécialiste des questions d'égalité femmes-hommes. Bonjour Nadine.
Bonjour.
Nadine, nous venons de faire ensemble 4 émissions abordant le sujet de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le sujet des freins et leviers d'une politique d'égalité. C'est parti ?
C'est parti.
Nadine, depuis 2014, les collectivités territoriales sont tenues de mettre en œuvre une politique d'égalité. Mais ce n'est pas toujours facile. Quels sont les freins que les collectivités peuvent rencontrer et les leviers qu'elles peuvent activer pour y arriver ?
Alors, c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident de mettre en place une politique d'égalité sur un territoire ou dans les services d'une collectivité. Et j'évoquerai des freins de deux ordres. Il y a les croyances et puis il y a les réalités. Quand je parle des croyances, je pense à l'une des premières difficultés des collectivités quand elles se lancent dans une démarche d'égalité. Et cette difficulté, c'est l'ignorance, voire le déni des inégalités femmes-hommes dans la fonction publique. Parce que quand on pense fonctionnaire, on pense concours, statut, grade, corps. Et on s'imagine que le statut protège des inégalités, ce qui en fait n'est pas le cas. On observe que femmes et hommes fonctionnaires n'ont pas le même déroulement de carrière, n'ont pas le même accès aux promotions, pas le même salaire, pas les mêmes retraites, et que le plafond de verre existe dans la fonction publique, comme partout dans le monde du travail. Le plafond de verre, c'est ce qui limite l'accès des femmes aux postes à responsabilité et aux plus hauts postes. Et le constat est le même sur le territoire. Les collectivités ne consacrent pas les mêmes budgets aux femmes et aux hommes, n'adaptent pas nécessairement l'espace public aux usages quotidiens des femmes, investissent moins dans le sport féminin, voilà, pour prendre quelques exemples. Mais ces inégalités-là sont invisibles, tant qu'on ne fait pas une analyse sexuée, quantitative et qualitative, du fonctionnement et des politiques publiques de la collectivité. Voilà, et donc ça, c'est vraiment le premier frein, c'est ce frein mental qui fait qu'on ne connaît pas, qu'on ne mesure pas ces inégalités qui restent invisibles. Toujours du côté des représentations, il y a aussi les stéréotypes qui ont la vie dure et évidemment les membres de la collectivité n'y échappent pas. Élus, personnels, citoyennes, habitants, nous sommes malgré nous tous et toutes conditionnés par des stéréotypes qui sont mis présents depuis l'enfance, dans la publicité, dans les loisirs, dans les manuels scolaires, dans les pratiques sportives, dans les jeux, les jouets, et il est presque impossible d'y échapper parce qu'ils sont partout. Et ces stéréotypes, eux aussi, vont constituer un facteur d'inégalité. Parce que ils conditionnent l'orientation des élèves, ils réduisent l'accès des garçons et des filles à la diversité des métiers, ils nous font considérer comme naturel que les filles fassent de la danse et les garçons du foot, que les filles soient studieuses à l'école et les garçons turbulents, que les filles s'orientent dans le paramédical et social et les garçons dans les sciences techniques, etc. Et donc ces stéréotypes s'infiltrent partout et ils orientent malgré nous, bien sûr, les politiques publiques. J'en reparlerai sans doute dans l'émission sur le budget, mais quand on finance un stade de foot, on privilégie de facto une pratique sportive masculine, majoritairement, en tout cas massivement masculine, sauf si on veille à développer du football féminin, par exemple, en parallèle. Et quand on ne travaille pas en mixte des filières qui sont très masculinisées ou très féminisées, on conforte malgré soi les stéréotypes au sein des services et auprès de la population. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les freins concernant les croyances.
C'est surprenant. Les idées reçues semblent jouer un grand rôle dans la politique et les pratiques des collectivités. Qu'en pensez-vous ?
Je pense effectivement qu'il ne faut pas sous-estimer ce poids des croyances, ce qu'on peut appeler les freins cognitifs que ça peut représenter. Vraiment, les croyances façonnent notre manière de voir, notre univers de pensée et va avoir des conséquences très pratiques. Et la troisième croyance que j'évoque, la première c'était donc... l'ignorance sur les inégalités, la deuxième c'était les stéréotypes, et le troisième frein du genre, c'est la diversité des visions que chacun se fait de l'égalité. C'est-à-dire que tout le monde emploie le terme d'égalité, mais on met pas du tout les mêmes réalités derrière. Pour certains par exemple, l'égalité c'est l'égalité des chances. Tout le monde a la même chance au départ et ensuite advienne que pourra. Pour d'autres, ça renvoie à la mixité, à la parité. Pour certaines personnes, la notion d'égalité renvoie à l'universalisme républicain. On traiterait tout le monde pareil, sans considération de sexe. D'autres parleront au contraire de complémentarité des sexes. Et il ne s'agit pas de prendre parti, d'imposer l'une ou l'autre manière de voir, mais déjà de prendre conscience de sa diversité, de comprendre qu'il y a des visions qui sont divergentes, mais souvent implicites, pas toujours formulées, qui peuvent susciter des oppositions, des résistances au sein de la collectivité. Et ça aussi, ça va être vraiment un frein important et, à mon avis, souvent sous-estimé. Et à parler de cette diversité d'approches et de notions, hein, sous le terme d'égalité, je rappellerai un constat de base qui me paraît utile pour conforter les politiques d'égalité, c'est que le contraire de égal, ce n'est pas différent, c'est inégal. C'est-à-dire que chaque personne est différente de toutes les autres, d'abord bien sûr entre les sexes, mais aussi entre les individus. Mais chaque personne, dans sa différence, doit être égale à toutes les autres. Et donc lutter pour l'égalité, pour en tout cas aller vers plus d'égalité, ce n'est pas nier les différences, ce n'est pas dire on est tous pareils, c'est supprimer les inégalités ou les discriminations subies par une catégorie de personnes, parce que ce sont des femmes, ou parce qu'elles sont jeunes, ou parce qu'elles sont noires, ou parce qu'elles sont mères de famille, ou parce qu'elles sont en situation de handicap, etc. Et puis, toujours dans ces freins dont on n'a pas forcément conscience, j'ajouterai que l'égalité femmes-hommes est un sujet sensible, pour chacune et chacun de nous, parce que elle renvoie à notre identité intime, à notre éducation, à notre culture, à notre vécu quotidien, personnel, professionnel, social. Et c'est toujours un sujet délicat qui demande de la prudence et de la pédagogie. Et les politiques d'égalité obligatoirement bousculent les idées reçues, les comportements, les pratiques professionnelles, les pratiques personnelles. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'elles suscitent de fortes résistances au changement.
Et les freins réels, ceux qui relèvent du fonctionnement concret de la collectivité?
Je pense que la première difficulté, si on est dans les freins vraiment, le côté très organisationnel, concret, la première difficulté, c'est celle du portage à la fois administratif et politique, de la politique d'égalité. Les soutiens et les facteurs extérieurs ne suffisent pas. Par exemple, si on a un tissu associatif riche sur un territoire, mais que le maire ou la mairesse sont indifférents à la problématique, ben, l'implication de la société civile ne suffira pas. Mais en général, quand une collectivité développe une politique d'égalité, c'est que le maire ou la mairesse sont convaincus quand même de la pertinence du sujet. Mais ce n'est pas toujours le cas de l'équipe municipale. Parfois elle est indifférente, parfois elle est réticente à porter la problématique dans sa délégation. Et les élus à l'égalité se retrouvent souvent dans une certaine solitude face à des collègues assez peu motivés par la question. Donc cette question centrale de l'implication se retrouve à l'interne, auprès des personnels administratifs de la collectivité. Il n'est pas toujours simple de convaincre les services de l'intérêt de la démarche, que ce soit du côté de la direction générale des services, des ressources humaines, de l'encadrement, et en particulier dans les services qui sont fortement masculinisés. Mais si les services ne sont pas, à minima, en tout cas partie prenante de la démarche, bah, ils vont la freiner ne serait-ce que par inertie. Et on comprend bien que c'est pas simple hein, pour les services, confrontés aux réductions de moyens, à l'augmentation de la charge de travail, aux changements politiques, aux nouvelles obligations légales, aux difficultés de terrain quotidiennes, d'intégrer encore une nouvelle problématique, qui est celle de l'égalité. Et souvent, ils la vivent comme une énième contrainte qui s'impose à eux de l'extérieur. Et là, c'est tout le travail des élus, des référents d'égalité, des chargés de mission, que de parvenir à convaincre les directions et les personnels des bénéfices réels pour le territoire et la collectivité de mener une politique d'égalité. Et puis, le dernier frein très factuel, donc cette question d'implication, d'organisation, c'est aussi le manque de moyens humains et financiers. Les personnes qui sont en charge de l'égalité sont souvent en manque assez chronique de moyens. Elles sont pas assez nombreuses. La mission égalité ne représente parfois qu'un faible pourcentage de leur temps de travail. La mission n'est pas reconnue en tant que telle, ne bénéficie pas d'un poste dédié. Et bien sûr, le budget ne suit pas toujours et il est rarement, on doit bien le dire, à la hauteur des enjeux.
Nadine, concrètement, quel levier est-ce que la collectivité peut activer face à ces freins?
Très logiquement, les leviers correspondent aux freins qu'on vient d'énumérer. Le premier travail à faire, c'est celui sur les croyances, les représentations, comme on l'évoquait tout à l'heure. Il faut lutter contre les idées reçues, d'abord en quantifiant les inégalités pour les faire apparaître, en clarifiant les représentations, en déconstruisant les stéréotypes, et si la collectivité ne fait pas ce travail, soit en amont, soit en parallèle du reste, elle risque de se retrouver face à des oppositions, mais mal identifiées en fait, un petit peu implicites, un peu floues, qui freinent la démarche. Et de manière plus large, il y a tout un argumentaire à développer en faveur des politiques d'égalité en montrant tout ce qu'elles apportent à la collectivité et à la population. D'abord, ces politiques d'égalité, ça permet de s'intégrer dans des dynamiques qui sont à la fois nationales et locales, et soit la collectivité sera à la pointe, soit elle va être derrière à la traîne sur ces questions qui montent quand même en puissance. Ensuite, les politiques d'égalité contribuent à l'efficacité de l'action publique, à sa qualité, à sa performance, parce que elles favorisent l'égal accès des femmes et des hommes aux dispositifs publics. Elles permettent de mieux cibler les besoins et les réponses, qui sont parfois différenciées selon les sexes. Elles améliorent la qualité de vie sur le territoire. En interne, elles augmentent l'efficacité et le bien-être au travail. Et puis, elles donnent de l'attractivité au territoire, ces politiques d'égalité. Et du coup, le territoire bénéficie d'une image positive auprès de la population et aussi auprès des agentes et des agents.
Et sur le plan concret, quels autres leviers sont efficaces ?
Alors bien sûr, si on reprend ce qu'on disait là aussi tout à l'heure, le premier levier, c'est très factuel, c'est ce que j'appelle la double hélice du pouvoir administratif et politique, à savoir que la démarche d'égalité doit être portée par un ou une élue à l'égalité qui soit membre de l'exécutif, qui soit pas trop éloigné du centre de décision réel, ce qui peut lui permettre d'agir de manière transversale et forte auprès de ses collègues. Et vu les résistances que j'évoquais tout à l'heure, sur les représentations, les ignorances, etc., ou les stéréotypes, cet élu qui porte la question doit vraiment pouvoir bénéficier du soutien du maire ou de la mairesse, enfin du président ou de la présidente de la collectivité. Il doit pouvoir vraiment s'appuyer sur ce soutien, sans quoi c'est un peu difficile. Et du côté de l'administration, la collectivité doit dégager un temps plein sur l'égalité, qui soit pas noyé dans un ensemble de problématiques, qui soit pas, par exemple, noyé dans la lutte contre les discriminations, parce que c'est un domaine qui est tellement vaste, les discriminations, que le risque, c'est de diluer la problématique de l'égalité femmes-hommes. Et donc, ceux ou cette responsable égalité, on a tout intérêt à positionner cette personne auprès de la direction générale pour lui donner de la légitimité, de l'efficacité, mais évidemment, là non plus, ça ne suffit pas. Il faut que cette personne soit vraiment bien formée à la problématique, plutôt dans une posture d'experte que de militante. Vu les résistances dont j'ai déjà parlé, je pense que la meilleure manière de convaincre, c'est d'avoir une expertise forte, un mélange de conviction et de compétences pour porter de manière vraiment efficace et légitime auprès de ses collègues la question de l'égalité femmes-hommes.
Alors là, vous venez d'aborder la dimension moyens humains et l'argent dans tout ça. Comment financer les politiques d'égalité dans un contexte budgétaire tendu actuel ?
Ça, c'est un levier évidemment indispensable. La réussite de la politique d'égalité dépend entre autres des ressources financières, mais pas seulement, mais entre autres, bien sûr, des ressources qu'on lui attribue. Et comme toutes les politiques publiques, l'égalité doit bénéficier d'un budget dédié suffisant. Ce budget n'empêche pas, bien au contraire, de développer une approche intégrée auprès des autres services, c'est-à-dire de faire porter dans tous les services des actions en faveur de l'égalité femmes-hommes, dans chaque secteur, dans chaque délégation. Mais disposer d'un budget bébé dédié permet de financer des actions propres, de sensibilisation, d'événements, etc. Je rappellerai aussi qu'on peut parfois faire beaucoup avec peu de moyens. Par exemple, quand on mutualise les actions entre les services, les organismes ou avec les autres collectivités. Le cofinancement est aussi une piste intéressante. Il y a des actions qui bénéficient de dispositifs régionaux, nationaux, européens. Et puis, il y a aussi beaucoup d'actions qui sont gratuites sur le plan financier, qui vont demander au départ un investissement en temps, en énergie, mais après qui vont tourner quasiment toutes seules. Je pense par exemple à la production de données sexuées, qui concerne les publics cibles et les bénéficiaires réels des dispositifs publics. Ça demande un peu de temps à mettre en place au départ, mais une fois qu'on a construit les outils de la manière adéquate, ça tourne tout seul. Dans un autre domaine, la collectivité peut par exemple promouvoir une communication sans stéréotype de sexe, et il y a de très bons outils pour ça. Ça aussi, c'est gratuit à mettre en œuvre. Et puis, dans le domaine de l'égalité professionnelle aussi, il y a beaucoup d'actions qui sont gratuites, et qui consiste à repenser les procédures, à suivre de nouvelles méthodes, à transformer les pratiques. Mais par contre, faut pas s'illusionner. Si on n'investit vraiment aucun budget, pas un sou dans l'égalité femmes-hommes, Bah, ça témoigne de l'intérêt très relatif qu'on porte à la question et de la place réduite que la collectivité lui accorde. Et dans ce cas, c'est beaucoup plus laborieux, évidemment.
Nadine, on voit bien les freins, mais aussi les leviers qui permettent à la collectivité d'avancer. D'après vous, qu'est-ce qu'on doit retenir finalement ?
Je dirais que face à ces freins culturels, organisationnels, financiers qu'on a évoqués, mais il n'y a pas de miracle, il faut investir. Alors investir du temps, investir de l'argent, investir du personnel, de l'énergie, des ressources, de l'expertise. La mobilisation des décideurs et des décideuses est un élément clé, on l'a vu, au niveau de l'exécutif et de la direction générale, mais c'est de manière beaucoup plus large, qu'il faut convaincre, impliquer, mobiliser, et pour ça, il faut vraiment légitimer l'égalité, construire, partager la démarche, des outils, des méthodes, des contenus. L'idée, c'est vraiment d'acculturer la collectivité à l'égalité, qu'elle construise une culture commune qui soit vraiment le socle de toutes ces politiques publiques. Ça, ça demande de la patience, de la méthode, de la stratégie, vraiment de la persévérance. Mais à terme, ça paye. Les collectivités pionnières qui ont commencé il y a 20 voire 30 ans à s'engager dans cette démarche d'égalité femmes-hommes, bah, peuvent en témoigner aujourd'hui. Le chemin parcouru est énorme et elles avancent vraiment sur tous les fronts avec beaucoup d'efficacité, indépendamment même des évolutions politiques de la collectivité. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est vrai, mais c'est un travail productif, c'est un travail stimulant et surtout c'est un travail fructueux pour le territoire, pour les populations et pour les personnels.
Nadine Jasmin, merci infiniment pour cet éclairage.
Merci à vous.
Quant à vous, chers auditeurs, auditrices, j'espère qu'à l'écoute de l'intervention de Madame Jasmin, vous avez noté les différents freins et leviers d'une politique d'égalité femmes-hommes en collectivité. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur le site radio.cnfpt.fr. À très bientôt pour une 12e émission sur le sujet de l'égalité femmes-hommes. Au revoir.
Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.